Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines.
Vilaine nouvelle ?
Nouvelle vilaine.
Vilaine nouvelle.
Nouvelle vilaine. Nouvelle vilaine. Vilaine nouvelle. Nouvelle vilaine. Histoire. Eh bien, bonjour, bonne année, comme on dit à cette époque. Et on va commencer par un feuilleton. Oui, oui, un feuilleton. Une histoire en plusieurs épisodes, une aventure. C'est un truc que j'ai écrit il y a quelques années maintenant. C'était à une époque où j'allais pas bien et que j'avais surtout un copain qui allait pas bien non plus. Ce copain, c'est Bernard Pochet. Alors, je lui écrivais toutes les semaines un épisode, ou voire deux, quand j'étais courageux. Et je lui envoyais par la poste parce que lui n'avait pas internet. Et alors voilà, je lui envoyais cette histoire. C'est la véritable saga d'Éric le Rouge, complètement inspirée de la saga d'Éric le Rouge, avec plein de vérités et puis en même temps plein de conneries. Et cette histoire, elle est dédiée à Bernard. Et Bernard, je ne sais pas si vous le connaissez, mais entendons-le.
Aux environs de l'an 500 après Gergovie.
Jordigern, le maître de toutes les Bretagnes, pour défendre ses terres, paya des mercenaires. Jordigern, le maître de toutes les Bretagnes, pour défendre ses terres, paya des mercenaires. Des côtes de la Frise, sur des bateaux très longs, voit le gonflé de brise, Hengist, le Saxon, et avec son frère Gosc, en guise de tribu, pris en otage les femmes de l'île de Wight. D'île en île, en quelques décennies, les Saxons prirent possession des royaumes bretons, quand un peuple est vaincu, et qu'il n'a plus d'histoire, il se fabulise alors une légende, sorte de Rosseignan. Jordigern, le maître de toutes les Bretagnes, pour défendre ses terres, paya des mercenaires. Jordigern, le maître de toutes les Bretagnes, pour défendre ses terres, paya des mercenaires. Du vent de la défaite naquirent des nuages, des ombres magnifiques en forme de victoire. Un énorme stratus en uther pendragon, un cumulonimbus, ses guenièvres et Artus, et Gauvin Lancelot et tous ses rois falots, Bretagne moribonde sous une table ronde. Mais depuis 2000 ans, sous l'Europe interlope, de l'Irlande à l'Ukraine, bien au-delà des haines, fermente lentement le germe interethnique, Les cathédrales ne sont ni romanes ni gothiques. Les cathédrales sont des sanctuaires celtiques. Les cathédrales sont des sanctuaires celtiques. Urtigern, le maître de toutes les Bretagnes, pour défendre ses terres, paya des mercenaires. Urtigern, le maître de toutes les Bretagnes, pour défendre ses terres, paya des mercenaires.
Eh bien, nous allons quitter les Bretagnes et nous rendre en Islande pour la véritable saga d'Éric le Rouge, ou en sous-titre, le fond de l'air est frais. Attention, hein, pas frais dans le sens il fait froid, non. Dans le sens effraie, vous effraie, vous fait peur sous ces latitudes. Été 986. Première semaine du mois de juillet, quelque part sur la côte islandaise. Il fait chaud. Bah, c'est normal, hein, c'est l'été. Très chaud. Si le thermomètre avait déjà été inventé, le mercure indiquerait dans les 14 degrés centigrades. Une vraie canicule. Effectivement, l'Islande bénéficie d'un climat exceptionnel comparativement aux autres terres situées à cette latitude. Grâce aux influences atlantiques, les températures y sont de l'ordre de 0 degré l'hiver et de 11 à 12 degrés l'été. Donc, il fait beau et ça tombe bien. Parce que ce jour-là est jour de ripaille, l'atling. En ce jour, l'atling, chaque année, la quasi-totalité de la population de l'île se réunit dans une ambiance festive. C'est à l'occasion de ces festivités où la population de l'île se mélangeait que les hommes prenaient épouse et que sont votées les lois et se tiennent les procès. Malgré cette longue période de chaleur, c'est qu'on a vu au plus fort de l'été des températures avoisinant les 16 degrés, peu de vieillards sont décédés. Et en tout cas, aucun de déshydratation. Les quelques raids lancés sur l'Angleterre ont rapporté gros, et la fille du chef local, au nom parfaitement imprononçable, se marie. Avouez qu'il y a de quoi faire la fête. Les participants ont bien l'intention qu'elle soit une réussite. les bœufs et les cochons grillent sur les brasiers. Les tonneaux de cervoise dérobés aux Anglais sont au frais. Les tables sont dressées. À la place de chaque convive, une écuelle, une sorte de cuillère en bois et un crâne en guise de hamap. Chacun fournira son propre tranchoir, un couteau, une épée ou tout autre instrument, selon sa préférence. Face au lieu de banquet, une estrade où les musiciens accordent leurs instruments. Bref, tout est prêt pour que la journée s'avère joyeuse. Les futurs mariés sont à l'heure actuelle dans la maison commune où elles revêtissent la traditionnelle robe, aidées par l'ensemble des femmes déjà mariées ou veuves qui chacune à leur tour dispensent leurs conseils. Nous n'avons retrouvé que très peu de documents à ce sujet, mais nous sommes en droit de supposer que ces conseils ressemblent comme deux gouttes d'eau à ceux qui sont dispensés en pareilles occasions à n'importe où ailleurs dans le monde, à savoir des trucs dans le genre « te laisse pas faire ». Ils ont de grandes gueules, les mecs, mais aussitôt que tu l'ouvres un peu à la maison, ils rabattent leur kéké. Ma fille, n'oublie jamais que les hommes, c'est par la queue de la casserole qu'on les tient. Bref, ce genre de petits conseils que toute ancienne a, de tout temps, donné à chaque nouvelle épousée et qui font que le sexe fort n'est pas forcément celui qu'on croit. Les mecs, puisqu'on en parle, pour meubler le temps, prennent un peu d'avance en vidant un crâne ou deux, histoire de se mettre en appétit. Certains jouent au josselet, d'autres parient sur le résultat du combat de lutte qui est en train de se dérouler. Bref, c'est la fête. Est-ce le hasard ou y a-t-il derrière tout ça un génial metteur en scène? Quoi qu'il en soit, au moment où les futurs mariés sortent de la maison commune en compagnie de la nuée caquetante qui les accompagne, l'orchestre attaque les premières notes, si l'on peut dire, enfin, d'un rythme improbable et tonitruant. Au même instant, ce qui tendrait à prouver que ce n'est pas tout à fait le prix du hasard, mais qu'un Patrice Chéreau local œuvrait dans l'œuvre, les cuisiniers, croulant sous le poids, amènent péniblement les bœufs et cochons rôtis empalés sur des broches et ruisselant de graisse. Au bruit émis par l'orchestre, comment dire autrement, c'est curieux cet orchestre. Les hommes se sont dressés, hormis un des lutteurs qui restera au sol pendant un bon moment. Et ces hommes viennent faire une haie d'honneur au cortège formé par les femmes. Les cris fusent. Putain, il est pas dégueu la môme! Oh, on a de la chance, le Cédric, c'est un beau petit lot, hein. Rien que des compliments et des « Vive la mariée !» à n'en plus finir. Certains comme des sourds sur leurs boucliers avec leurs épées, d'autres sur les épaules du voisin, ça rit, ça chante, ça pleure. comme dans un mariage bien de chez nous, hein. Enfin, les épées en plus. Les futurs époux s'avancent à leur tour, et c'est de nouveau des cris, des piaillements. L'orchestre s'en donne à cœur joie, entre autres le batteur, comme nous dirions de nos jours, qui lui tape à qui mieux sur ses tambours et tout ce qui se trouve à sa portée avec une énergie qui fait plaisir à voir. Il doit vraiment y avoir un metteur en scène, car aussi brutalement que le vacarme avait commencé, le silence se fait. la cérémonie commence. Et l'on peut dire que, grosso modo, ça se passe à peu près comme chez nous. Une espèce de chaman baragouine un tas de choses, pose des questions aux futurs époux. Ceux-ci acquiescent, et l'autre, il reprend son baragouin. Et quand il a fini, le bordel sonore reprend, et tout le monde se rue vers les tables, maintenant chargées de victuailles. Oh, je m'étendrai pas plus longtemps là-dessus. Surtout sur le manque de savoir-vivre du viking en train de se nourrir. Rien à voir avec ce qui se pratique dans les salons de l'Élysée ou autres demeures monarchiques. La France d'en bas elle-même a de plus graves et de plus suaves manières, n'en plaise à notre Premier ministre. Ah, pour ripailler, le viking, ça ripaille, c'est le moins qu'on puisse dire. Tiens, pour vous donner un ordre d'idée, les protagonistes de la grande bouffe se comportent comme des seigneurs, comparés à ce que nous voyons se dérouler sous nos yeux. Un repas de fête gaulois, mais plus rustre, si vous voyez ce que je veux dire. Et par-dessus tout ça, l'orchestre noie les cris des convives sous un flot de sifflements, de stridulations, de tintonnements et autres fracas. Imaginez que vos pauvres oreilles soient soumises au son suivant. Et j'en passe. Le tout est mis simultanément, et vous aurez une vague idée de l'ambiance régnant sur ce mariage. Ah ça, pour avoir de l'ambiance, il y a de l'ambiance. Ça chante, ça rigole, ça s'engueule, même très fort là-bas. Et tellement fort que le silence se fait peu à peu autour de cette algarade. Tous les yeux se sont tournés vers les protagonistes. Même le batteur fou s'est figé après avoir donné un dernier coup de gourdin à son voisin de gauche. C'est une bagarre. Une vraie. Une... comme ils les aiment. Ils retiennent leur souffle quand les deux adversaires, d'un même élan, grimpent sur la table. C'est pourquoi cette bagarre? Vous appelez ça un mariage, vous? N'y a-t-il jamais moyen de manger en paix? Et que va-t-il se passer? Le temps va-t-il fraîchir? Ah, c'est ce que nous apprendrons peut-être, et même sûrement, dans le prochain épisode de notre nouveau grand feuilleton, la véritable saga d'Éric le Rouge, où le fond de l'air effraie, vous fait peur, même sous ses latitudes. Deuxième épisode de la saga véritable d'Éric le Rouge, où le fond de l'air effraie, enfin fait peur, surtout sous ses latitudes. À notre gauche, un petit brun, Eric Tolvarsson, 5 pieds 4 pouces. Face à lui, un escogriffe dont l'histoire n'a pas retenu le nom et nous non plus, ce qui n'a pas grande importance vu celle qu'il aura dans ce récit. N'empêche, l'individu en question fait dans les 6 pieds et au moins 3 orteils, ce qui à première vue laisse peu de chances de triomphe à ce somminebeau d'Éric. L'adversaire de notre héros, car bien sûr, vous l'avez compris, ne serait-ce que par le titre de ce feuilleton, c'est ce Éric Tolvaxson, le héros. Je profite de cette parenthèse pour vous signifier que c'est la dernière fois que je citerai son patronyme au complet. Enfin, parce que c'est trop compliqué. Mais toutefois, vous serez heureux d'apprendre qu'il s'appelait Éric, parce que c'était le nom que lui avaient donné ses parents, et Thorvaldsson, parce que son père s'appelait Thorvald. Et le rouge, pour un tas de raisons, toutes plus obscures les unes que les autres. Certains disent que c'est parce qu'il était roux, ce qui est manifestement faux compte tenu de la première ligne de cet épisode que je viens de vous raconter. D'autres supposent que cette appellation lui fut attribuée suite à ce que je vais vous raconter, ce que je veux bien croire. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre. Notre héros est connu sous le nom d'Éric le Rouge. Nous n'en émordrons pas. Et nous ne reviendrons pas là-dessus. Tiens, voilà que je fais comme mon cher éditeur, que je m'exprime à la première personne du pluriel, un vulgaire roi soleil. Ah, il va falloir que je fasse gaffe, je me laisse influencer. Mais c'est pas le tout. Faudrait voir à rentrer dans le vif du sujet, sans quoi vous allez attendre. Et à propos de rentrer dans le vif du sujet, nos deux protagonistes l'ont fait depuis un moment. Ça se cogne à qui me mieux. Et les coups, des coups drôlement vicelards, vous pouvez me croire. Éric est petit mais costaud et il est surtout hargneux comme un pou. Et de plus, son adversaire a une tête d'anglais. Et Éric déteste les Anglais, ce qui n'est pas étonnant, hein, moi-même personnellement. Mais il déteste aussi les grands blonds, et son adversaire est grand et blond, tout pour plaire. Hein. Du coup, le Éric se met dans un état de rage difficilement descriptible. Je me fatiguerai donc pas à essayer de le faire. C'est à vous de le faire, auditeur, et ça vous musclera l'imagination. Et alors, après avoir réussi à faire chuter son adversaire, Éric se met à taper dessus avec tout ce qui lui tombe sous la main. Or, il se trouve que l'un des occupants de la table qui sert de ring se servait de sa hache pour couper sa viande. Une belle hache viking qui doit bien peser dans les 10 livres et affûtée de frais. Le genre d'instrument qui vous tranche un bras ou une jambe d'un coup si vous n'y prenez garde. C'est vous dire ce qui se passe quand celui qui s'en sert a l'intention de faire mal. Et il a l'intention de faire mal, Éric. Ah, je sais pas si le metteur en scène a crié « couper », mais il coupe. L'âche s'abat avec une belle régularité de celle d'un bûcheron canadien. Une fois, deux fois, trois fois, 5 fois. À chaque coup, le grand escogriffe se voit amputé d'un membre. Au 5e, sa jeune épousée pousse un cri. Elle vient de comprendre que son mariage ne sera jamais consommé. Ah, il est évident que dans ces conditions, le combat ne peut continuer. Il cesse donc de rechef. Suite à quoi, chacun réagit à sa manière. Certains félicitent le vainqueur, d'autres plaignent le vaincu. Les spectateurs les plus proches du combat essayent vainement de se débarrasser du sang dont ils sont recouverts. Quelques bons samaritains tentent de ranimer la veuve. Les chefs estiment que cet acte est en sorte une sorte de crime et que justice doit être faite. Eric est impressionné. Il est décidé qu'il sera jugé le lendemain et tout le monde reprend sa place à table parce que c'est pas le tout, mais si ça continue, ça va refroidir. Le procès a lieu le lendemain. Rien d'exceptionnel, hein. C'était l'Alking, rappelez-vous, cette assemblée annuelle où étaient si célébrés les mariages, votaient les lois et se tenaient les procès. Les contrevenants, criminels et autres inculpés étaient amenés un à un devant un tribunal constitué par les chefs. Quand ce fut le tour d'Éric de comparaître, le président du tribunal, qui n'avait guère de mémoire, ne se souvenant pas du nom du prévenu, prononça en s'adressant aux gardes « Amenez-nous ». Il hésita, et puis, en désignant du doigt la cage où étaient enfermés les futurs condamnés, il ajouta « Là ! Le rouge !» Et en effet, Éric était encore recouvert du sang de sa victime, et ce surnom lui allait comme un gant. Le crime est-il héréditaire? On serait tenté de le croire quand on sait que le papa d'Éric, alors que celui-ci était encore un enfant, fut contraint de s'exiler en Islande pour avoir tué deux des fils de son voisin. Oh, quoi qu'il en soit, le crime d'Éric fut jugé assez important pour que lui aussi subisse ce châtiment. Le tribunal décida qu'Éric, après avoir démembré le grand escogriffe, subirait un bannissement de 3 ans. Attention, ici, j'ouvre une parenthèse culturelle. Certains se sont interrogés sur l'origine du mot « viking ». Le dictionnaire donne l'explication suivante. « Viking ». Nom donné aux Scandinaves qui prirent part à l'expansion maritime du 8e au 9e siècle. Mot scandinave qui viendrait peut-être du vieux nordique « vik » qui signifie « baie ». Alors là, je pouffe. La réalité est que, comme presque tous les peuples, les Scandinaves adoraient les sources de la vie. Et une des coutumes de ces croyances est la représentation de celle-ci sous la forme d'un phallus dressé. Or, certaines statues phalliques retrouvées dans les sites vikings sont porteuses d'une couronne. Et de là à affirmer que le vi était considéré par ce peuple comme un roi, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement. Cette hypothèse est d'ailleurs renforcée par le jugement qui suivit le combat que je viens de vous relater. Car ce n'est certes pas pour avoir coupé 2 bras et 2 jambes à son adversaire Kyrick aurait été condamné à une peine aussi infamante. Voilà, enfin, fermeture de la parenthèse culturelle. Éric rassembla donc sa petite famille, ses esclaves, ses vaches, ses poules, ses cochons, embarqua tout son petit monde sur ses drakkars et en route pour d'autres cieux. Il était banni, mais pas solâtre, hein, notre Éric. Tout bien compté, entre ce que je viens de vous énumérer et les quelques copains qu'il persuada de venir tenter l'aventure à ses côtés, c'est une petite trentaine de bateaux qui prirent la mer. La fameuse saga dit que près de 600 personnes prirent part à ce voyage. À bord de ce navire, il y avait des hommes, des femmes, des enfants, des bovins, des moutons, des chevaux, des cochons et des chiens. Du foin pour les animaux, du poisson séché, du fromage et du beurre, des outils agricoles, des articles pour la maison, des tentes, de l'équipement pour la chasse, des armes, etc. Bref, tout ce qu'il faut pour survivre à cette époque. Et Eric ne part pas au hasard. Il a décidé de partir à la recherche de cette terre aperçue vers l'ouest quelques 50 ans plus tôt pour un dénommé Grumbleorg Ifsen. Et si elles existent, et il n'y a pas de raison, il les trouvera. Alors, est-ce que la veuve s'est remariée ? 3 ans de bannissement, n'est-ce pas un peu cher payé ? Les Vikings étaient-ils contre la peine de mort ? Ah, c'est à ces questions que répondra sans doute pas le troisième épisode de notre grand feuilleton, la véritable saga d'Éric le Rouge, où le fond de l'air est frais à l'ouest de ses latitudes. C'est donc une trentaine de navires qui prirent la mer en cette fin d'été 981. Un mois et demi ne furent pas trop longs à Éric pour convaincre une trentaine de compagnons de se joindre à lui. Mais vous me direz, la fameuse saga dit que près de 600 personnes prirent part à ce voyage. Ah bah oui, certes. C'est bien ce que j'affirme. 30 compagnons, mais avec femmes, enfants et esclaves. Et si on compte que chaque viking avait une femme, quelques enfants, enfin disons 5-6 en moyenne, et une bonne douzaine d'esclaves, car il faut savoir que si le viking est un excellent guerrier, c'est un fichu fainéant qui préfère faire travailler les autres que de se salir les mains. Alors, on arrive facilement à ce chiffre de 600. Et puis, je vous en prie, hein, arrêtez de mettre en doute tout ce que je dis, sinon on va jamais avancer dans cette histoire. Bon, enfin, les voilà partis, cap à l'ouest. Ah oui, cap à l'ouest, comme le professeur Tournesol. et en suivant les indications de Gumbar Hobson, qui avait perçu des terres loin à l'ouest de l'Islande. Et voilà Eric qui guide sa troupe. Il cède des informations laissées par Gunnbjörn sur les différents courants qu'il va rencontrer. Il a aussi à sa disposition, comme tout bon viking, des tables de déclinaison indiquant la hauteur du soleil avec une sorte d'astrobal, le secteur solaire, grâce auquel il peut faire un point, disons, approximatif. Il possède aussi une pierre solaire, la cordiérite, une sorte de cristal qui a la particularité de virer du jaune au bleu lorsqu'on l'expose perpendiculairement au plan de la lumière solaire. Ouais, c'est un truc curieux, mais ça existait déjà. Enfin bref, il possède tout ce qu'il faut pour trouver ses terres. Enfin, si toutefois elles existent. Mais l'Atlantique Nord, c'est l'Atlantique Nord. C'est-à-dire tout le contraire d'une partie de plaisir. Hein ? Parlez-en donc à Carcassonne pour voir. Et alors, entre l'Islande et le Groenland, il y a bien 2 cm sur une carte au 1/300 millionième. Ce qui représente, au bas mot, quelque chose comme à peu près 700 km. Et tout ça dans des bateaux relativement plats, sans la moindre protection, et contenant hommes, femmes, enfants, animaux, nourriture, et tout ça pour tout ce petit monde. Alors on a beau être en été, eh ben, il fait quand même pas très chaud, surtout quand des paquets de mer vous arrivent par le travers, que l'on ne peut faire sécher ses vêtements et qu'il faut écoper sans cesse. Sans compter que ces fichus animaux, les veaux, les vaches, les taureaux, les chevaux, les moutons, les cochons, les chiens, j'en passe, vont et viennent, pissent, chient à qui mieux. Ah, ça en fait des choses à balancer par-dessus bord. Bon, et puis, bon, moi, je le redis encore une fois, l'Atlantique Nord, c'est l'Atlantique Nord. Ça veut dire des rives de glace, voire même des icebergs, du vent, des tempêtes et toutes sortes de joyeusetés que l'on ne rencontre pas quand on se contente de faire du voilier de plaisance au large des côtes méditerranéennes. Tout ça pour dire que le voyage ne fut pas de tout repos. Quand ils arrivèrent en vue des côtes de ce qu'ils n'avaient pas encore baptisé le Groenland, il ne restait plus que 14 navires. Quelques-uns avaient fait demi-tour, un plus grand nombre avait purement et simplement disparu dans les tempêtes. Inutile de vous dire que les survivants étaient heureux d'arriver à bon port. On dit qu'ils abordèrent dans la région d'Amundsgaardlik. À l'époque, le sud du Groenland n'était pas encore recouvert de glace. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Eric nomma ainsi les terres qu'il venait de découvrir. Ah, si elles étaient vertes, ces terres, elles n'en étaient pas moins relativement désolées et surtout peu boisées. Ce qui est un tantinet gênant, car le bois, on en avait fichtrement besoin à cette époque. Et oui, pour se chauffer, bien sûr, il n'y avait pas de pétrole. Mais aussi pour construire des habitations, des bateaux et toutes sortes de choses. Enfin, néanmoins, la vie s'organisa. Heureusement, il y avait des prairies en quantité suffisante, ce qui permit au bétail de se reproduire. Les conditions climatiques permettaient la culture des céréales, ce qui ne sera plus le cas après le XIIIe siècle, où les glaces envahirent le sud du pays. Mais enfin, c'était le Groenland, hein, c'était pas le Pérou. Hein. Ah oui, ben je sais. vous allez me dire que vous en avez marre du culturel, mais et qu'on est là pour se prendre la poire. Mais il faut bien exposer tout ça un bon coup si on veut entrer dans le vif de l'action. Et puis en plus, hein, quoi qu'on dise, la culture, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et en tout cas, ça n'aurait pas fait de mal à nos Vikings. Les céréales arrivaient certes tant bien que mal à pousser, mais ce n'était certainement pas en quantité suffisante pour nourrir hommes et bêtes. Et plus gênant encore, pas assez pour fabriquer les boissons alcoolisées dont ils avaient l'habitude de faire une grande consommation. De plus, pas une abeille à l'horizon. Et qui dit pas d'abeille, dit pas de miel. Et qui dit pas de miel, dit pas d'hydromel. Bref, c'était la grosse catastrophe. Ah, heureusement, il y avait du gibier. Hein. Et quel gibier, hein. Des ours, des phoques, des morses, un tas de volatiles, certains comestibles, d'autres plutôt moins que plus, et un tas de rongeurs divers, enfin. Grosso modo, si on ajoutait les animaux d'élevage, question viande, ça allait bien. Bon, alors, c'est quand qu'il y a une histoire Et puis qu'est-ce qui devient, Eric? Et puis, c'est quand qu'on boit un coup? Et puis l'auteur, on va le virer? Ça, c'est ce que nous apprendrons sûrement, et peut-être dans le prochain épisode de notre grand feuilleton, la véritable saga d'Eric le Rouge, où le fond de l'air est frais, enfin, pas froid, hein, peur, dès ses latitudes. Peu à peu, la vie s'organise. Les rescapés de cette difficile traversée, après avoir construit leurs habitations, préparé la terre pour de futures récoltes, doivent faire face à l'hiver. Les provisions dont ils s'étaient munis pour la traversée et les premiers mois de colonisation arrivent à leur fin. Le manque de boissons euphorisantes se fait sentir. L'ambiance n'est pas au beau fixe. Les rixes se multiplient. Et comme on ne peut pas se réconcilier autour d'un crâne ou d'une corne... Ah ben oui, parce que les cornes servaient aussi de récipient à boire quand on manquait de crâne. Eh bien, les querelles perdurent. Heureusement, Eric possède, entre autres qualités, celle de ne pas hésiter à cogner sur tous ceux qui lui obéissent pas, et en bon chef, de savoir mobiliser les énergies sur un bouc émissaire quand les querelles risquent d'empoisonner l'atmosphère. Rien de tel pour réconcilier une troupe qui se déchire que de lui désigner un coupable extérieur. Cette technique, déjà pratiquée par César, entre autres, fut reprise à travers les âges par des conducteurs d'hommes aussi renommés que Napoléon, Hitler, Staline, tout dernièrement un certain George William Bush, et même un certain Sarkozy, a compté qu'elle représente également l'avantage de détourner l'attention de ses propres insuffisances. Ah, ben, car il n'est pas fou, Eric. Il sait très bien que si les choses continuent ainsi, il y aura bien quelques individus un peu moins abrutis que les autres qui finiront par le tenir pour responsable de la cagagne dans laquelle ils se retrouvent tous. Ah, alors il fait donc le nécessaire vite fait, bien fait, et se dit qu'il est temps d'organiser une véritable expédition de reconnaissance. Enfin, véritable, parce qu'il a déjà envoyé quelques missions de ce genre, mais seulement aux alentours du camp. Et que c'est bien le diable si on ne trouve pas quelques autochtones à qui s'en prendre dans les environs. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait, et notre Eric convoque une assemblée générale, et devant la colonie réunie, tient le discours suivant. Vikings ! Vikings ! Nous partîmes 500, mais par un coup du sort, nous fûmes bien moins en arrivant au port. Après un long et pénible voyage où tant de nos compagnons et compagnes ont trouvé la mort, nous avons abordé sur cette terre. Nous y avons construit nos demeures, préparé la terre qui nous fournira nos futures récoltes. Nous avons dû travailler dur, sacrifier nombre de nos vaisseaux. Dur sacrifice pour les marins que nous sommes. Mais comment aurions-nous pu faire autrement? Le bois est si rare ici. L'hiver arrive, nos provisions s'épuisent. Nous ne pouvons aller nous ravitailler chez nos frères en Islande, en Normandie, avant le printemps. Mais ce pays est vaste. Nous n'en occupons qu'une infime partie. Les rares habitants que nous avons pu apercevoir ne semblent pas bien dangereux. Et nous ne craignons personne. Il est temps pour nous de nous emparer de ce qui nous revient de droit. Après le temps des constructions et des labours, vient celui de la conquête. Ainsi, quand viendra le printemps, ceux d'entre nous qui ne sont pas bannis pourront aller vers nos frères, leur conter nos exploits, échanger les richesses que nous aurons acquises contre tout ce qui nous fait tant défaut. Ah, avec un tel discours, il n'eut pas beaucoup de mal à les convaincre. Guerroyage et pillage sont les deux mamelles du viking. La guerre est le moyen d'avoir le nécessaire. Un riche butin, des esclaves qui pourront par leur travail procurer le bien-être. Plus d'esclaves signifie plus de champs, plus de récolte et moins de travail. Et ça, c'est un langage que n'importe quel viking comprend. Hein. Peu importe si quelques braves sont tués au combat, ils iront rejoindre leurs glorieux ancêtres au banquet d'Odin. Guidés par les Valkyries, ils iront faire ripaille au Valhalla, l'éternité bien heureuse des vikings. Bah, en attendant, c'est sur place qu'on va répailler, hein, car il a tout prévu, Eric. Il sait que les bonnes paroles ne suffisent pas et que les guerriers sont comme les fleurs, il faut les arroser au bon moment. Un banquet s'organise Maigre banquet, car maigre provision, mais comme on dit, c'est l'intention qui compte. Hein. Quelques ours rôtis, un ragoût de morse et les quelques tonneaux qu'Éric avait précautionneusement mis de côté feront l'affaire. Ah, ce ne sera pas un banquet inoubliable, mais on est suffisamment échauffé pour être en état d'entonner « J'irai revoir ma Normandie » et de pleurer quelques larmes nostalgiques au passage. Ah, le lendemain matin, malgré un léger, très léger, un mal de tête, quoi, une exposition se met en route. Elle comprend la plupart des guerriers, un certain nombre d'esclaves. Ceux-ci ne rechignent pas à donner des baffes quand l'occasion se présente, hein, faut pas croire. C'est qu'ils ne sont pas vraiment malheureux, les esclaves des Vikings. Or, bah, s'ils ne refusent pas le travail, ils ne sont pas maltraités et finissent par être si bien intégrés qu'ils font en quelque sorte partie de la famille. Quelques guerriers restent au village, on ne sait jamais, hein, et pendant l'absence des hommes, ce sont les femmes qui traditionnellement dirigent le travail des fermes et gèrent les finances. Les femmes vikings sont respectées. Elles détiennent aussi le pouvoir religieux. Je voudrais pas avoir l'air trop culturel, mais je voudrais vous dire que à l'époque, les femmes vikings détenaient le pouvoir religieux, mais que celui-ci leur fut retiré, aux femmes, quand les vikings se sont convertis à la religion chrétienne. Eh oui, c'est quand même un comble, parce que il semblerait quand même que c'est elle qui était au premier plan de se convertir et de pousser les hommes à se convertir. Et puis du coup, c'est elle qui ont tout perdu, comme quoi. Ouais, bref. Voici donc notre troupe quittant le village. Et se disant que c'est au sud qu'il y a des chances de trouver de meilleures terres et surtout le meilleur climat, c'est donc dans cette direction qu'Éric pointe le doigt pour donner le signal du départ. Les quelques missions de reconnaissance qu'il avait lancées pendant la période d'installation lui avaient clairement démontré qu'au nord, à part de la neige et de la glace, il n'y avait pas grand-chose à trouver. Et bien que les Vikings sachent ce qui est patiné, c'est pas des Scandinaves pour rien, ils sont comme tout le monde. Ils préfèrent nettement d'autres conditions climatiques. D'autre part, ces mêmes missions de reconnaissance lui avaient appris qu'en s'enfonçant à l'ouest, à l'intérieur des terres, on se trouvait très vite en présence de hauts sommets. Et le Viking est un marin. C'est donc très très logiquement, en suivant la côte, que cette troupe s'avance. Et alors, que vont trouver nos Vikings ? En quoi un discours de chef viking diffère-t-il de celui d'un homme politique français? Hein? Et pourquoi partir au Groenland quand on aime le Sud? Ah, bah c'est ce que nous apprendrons sans doute jamais. Mais ça doit pas vous empêcher d'écouter le 5e épisode de notre grand feuilleton vikingo-historico-culturel, la véritable saga d'Éric le Rouge, où le fond de l'air est frais, dans le sens, il fait pas froid, mais ça fait peur, au sens au sud de ces latitudes. Au sud, donc, cette troupe s'avance. C'est plein de cailloux, de troupeaux de phoques et autres mammifères de la même famille. Les rares espaces cultivables sont dans l'état où les dieux les ont créés. Pas la moindre culture à l'horizon. Nos vikings progressent ainsi depuis bientôt une semaine. Et ils n'ont rencontré que de rares habitants. Une famille, par-ci, par-là, vivant sous une tente de fortune, chassant le phoque ou pêchant. Éric a vite compris qu'il ne pourrait rien tirer de ces slarkling. Ah ouais, ça, slarkling, c'est un mot péjoratif dérivant de chétif, de mal constitué, enfin bref... c'est très péjoratif, quoi. D'abord, ils sont petits, ces indigènes. Ils ont des traits mongoloïdes. Nos vikings n'avaient encore jamais vu ce type de faciès. Enfin, sauf quelques trisomiques. Mais de là, sans doute, le peu de considération qu'ils accordèrent à ces peuplades. De plus, rien n'a dérobé. Sauf peut-être quelques morceaux d'ivoire ou de dents d'ours qui pourraient servir de parure à la rigueur. Oh, ils n'étaient même pas drôles à massacrer, ces slarkings. Ils se défendaient à peine. Bah, moi, personnellement, je vois d'ailleurs pas comment un pauvre Unit, ce qu'est le vrai nom de ce peuple, chasseur et pêcheur, mais certainement pas guerrier, aurait pu résister à une troupe de vikings conquérants. Donc, les vikings se contentèrent d'effrayer les rares habitants qu'ils rencontrèrent. Ceux-ci, en voyant approcher les intrus, restaient figés d'étonnement, pas agressifs pour deux ronds. Chasser les autochtones était pour les vikings la plupart du temps une simple formalité. Quant à ceux qui faisaient mine de résister, mal leur en prenait. Éric avait parmi ses troupes quelques berserkers. Ah, berserker, littéralement ça veut dire veste d'ours. Et en fait, c'était les plus redoutables des vikings. Avant la bataille, ces guerriers s'exaltaient jusqu'à la frénésie et combattaient sans souci de la douleur. Et c'était eux qu'on envoyait au début des combats pour effrayer les ennemis. Enfin bref, je vous raconterai après. Et je vais profiter quand même de cet intermède culturel pour mettre fin à une légende. Celle du viking, peuple guerrier. En fait, les vikings étaient surtout commerçants. Mais... comme leur terre d'origine était peu hospitalière, ils éprouvèrent le besoin d'aller voir ailleurs si, des fois, c'était pas mieux. Alors, ils ne combattaient que lorsqu'ils ne pouvaient pas faire autrement, mais leurs attaques surprises semaient une telle terreur qu'ils avaient peu à combattre. Et quand il le fallait vraiment, Leur tactique consistait à former un rempart de boucliers et d'avancer à la rencontre de l'adversaire. En fait, ils n'utilisaient la force que pour se procurer de nouvelles ressources et de nouveaux marchés, comme on dirait maintenant. Hein ? Autrement dire que leurs mœurs n'étaient pas si éloignées de ceux de notre époque. Eh bien, voilà, c'est fini pour aujourd'hui et nous retrouvons Eric et ses Vikings et leurs aventures dans une prochaine émission. Je dis merci à Steph qui est derrière la vitre et à vous, chers auditeurs, je vous dis comme d'habitude, à la prochaine fois, même endroit, même heure.